Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio.
Je vous l'avais dit que c'était court, roue libre, ça continue évidemment, voilà, avec Jérôme Pinault toujours là, avec Frédéric Brindel, avec Johan Bredov, pour évidemment rendre hommage à Romain Bardet, premier porteur du maillot jaune de ce Tour de France 2024. Il est 18h32 et à partir de 19h, ça sera l'after tour pour continuer, toujours en direct sur l'appli RMC, sur la radio RMC 100% route, pour continuer bien sûr de débriefer cette victoire de Romain Bardet, avec vous aussi au 32-16 touche 9, avec David qui est avec nous. Salut David!
Salut équipe.
Alors comment tu te sens? T'as vibré j'imagine comme tout le monde hein.
Ouais, j'ai vibré. En fait, moi, j'ai deux poids de mesure. C'est que je suis content parce que Romain Bardet a gagné avec son travail de son équipe avec Van der Broek, et je suis aussi content parce que la Jumbo Visma qui roulait pour essayer de ramener leur sprinter, moi j'oublie son prénom,
Van Aert.
Wood Van Aert n'a pas réussi. Parce que je suis comme Vincent, je suis dégoûté de cette équipe, la Jumbo Visma. Mais moi, j'ai pas vu le reportage. Je suis dégoûté depuis la dernière Vuelta. Qu'ils ont fait tous 1, 2 et 3 et qui ont neutralisé la course. Et là, je suis content, on a vu une course de mouvement, on a vu des échappées, ça a bien bougé et je suis bien content que pour une fois, une échappée aille au bout et que ce soit un Français qui porte le maillot jaune.
Oui. Ce que dit David, effectivement, bon, quand on est supporter, David, c'est vrai que ça prend en trip. On a vu la team Visma rouler pour Van Aert, mais ce qui avait pire encore, ce sont les Lidl Trek hein, qui ont énormément roulé parce qu'il y avait Mats Pedersen dans le coup.
Après, c'est normal, on peut pas leur en vouloir. Ces équipes
alors,
de rouler,
bien sûr, bien sûr.
Maillot jaune.
Non, mais j'ai bien.
Soir.
Oui, François, mais j'ai bien précisé que quand on est supporter, ça fait
ah,
ça.
Oui, voilà.
Mais c'est vrai que ça donnait les nerfs. Mais en tout cas, sur cette étape, ils n'étaient plus nombreux. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 48 à pouvoir gagner officiellement le Tour de France, parce qu'il y avait 48 coureurs dans la première partie du groupe. Et après, ça explose. Je pense que Johan nous en donnera quelques exemples après. Mais franchement, quelle étape,
ouais.
et le fait que des équipes comme Visma, comme dit David, ou Lidl Trek aient pu avoir encore 4-5 coureurs pour rouler, ça rend encore plus fantastique la performance du duo de Vandenbroek-Bardet. Ouais.
Et c'est un nouveau c'est un nouveau départ à l'étranger qui est pleinement réussi.
Ah oui.
Déjà l'année dernière, on avait eu deux premières étapes absolument incroyables avec déjà Pogacar, Vingegaard qui s'était attaqué, Victor Lafay avait suivi et avait gagné la deuxième. Là encore, c'était une étape, il y en avait partout, c'était incroyable.
Ouais.
Alors, il y a la victoire au bout de Romain Bardet, évidemment, ça décuple encore les sensations, mais l'étape en elle-même est juste grandiose.
Jérôme ?
Le parcours de l'étape était difficile, et la preuve, hein, elle a épaillé un certain nombre de coureurs, et notamment nos coureurs français. Je voulais revenir sur ce que disait David, mais et sur la chasse derrière les deux coureurs. Il y a deux choses, deux faits de course qui m'ont un peu choqué. Non pas que Jumbo, enfin que Visebike roule parce que Van Aert et parce que je pense qu'ils ont intérêt de gagner des étapes. On ne sait jamais pour le général. Et de deux, Lidl Trek normal, Pedersen s'est arraché pour basculer dans la cinquième difficulté. Ensuite, il a suivi, il n'a pas été lâché. Donc logique que ces deux équipes-là roulent. En revanche, moi j'aurais mangé le canapé si c'était rentré parce que qu'est venu faire EF? Et que sont venus faire les Ineos dans la chasse.
Ouais, EF, alors, ils avaient Alberto Bettiol, le champion d'Italie.
Il y a Van Aert et Pedersen dans un groupe au sprint.
Oui,
tu veux faire quoi, troisième?
C'est bien, j'étais encore plus énervé que toi, Jérôme.
Impossible. Ouais. Et encore plus Ineos. À un moment donné, ils ont évoqué pour Pidcock. Mais depuis quand Pidcock il va plus vite que Van Aert et que Pedersen?
Il l'a déjà battu au sprint sur l'Amstel.
Ouais, non, mais l'Amstel, c'est une classique d'un jour, c'est pas la même histoire. Hein.
Non, mais j'essaye de les excuser.
Tu viens pas rouler comme ça, et c'est le fait de ces deux équipes qui, ils ont battu. Tu vois, EF, ils avaient Ben Illy, qui, pourquoi il a pas démarré en même temps que Bardet? Il a attendu une bosse de trop. Et derrière, c'est lui qui roulait, ça m'a rassuré aussi, parce que je dis, s'il a pas réussi, lui, à boucher tout seul, pas parce qu'il roule avec des mecs dans la roue, qu'il va aller plus vite. Donc ça, c'était cool. Le fait que Jumbo, que Lisebike vienne rouler, Lidl roule. Lidl, normal, le leader, c'est Pedersen, ils veulent gagner des étapes. Lisebike a laissé beaucoup de cartouches, et notamment Jorgensen. Tout à l'heure, on a parlé de Jorgensen, potentiel coureur.
Ouais.
Ça fait beaucoup de cartouches. Alors, soit ils sont sûrs
plus
et certains
Kelderman, hein,
que leur petit. Ouais, Kelderman. Soit ils sont sûrs et certains que leur génie, qui ne fait pas de vélo et qui est resté 3 semaines à l'hôpital va gagner le tour, ou alors ils font une grosse erreur. Mais comme ces gens-là, connaissent parfaitement le vélo, ils nous l'expliquent tous les ans, on va les croire.
Il y a la control room.
Bon, David aussi.
Dans la control room, ils ont dû analyser les watts.
Ils sont en train de le faire, là. David, on va parler d'un autre David aussi, puisque c'est vrai qu'on l'a dit en début de ce roue libre, Romain Bardet, c'est normal de parler pendant 40 minutes de la victoire de Romain Bardet, et on va continuer d'en parler demain à partir de 11h dans le prologue, tous les jours donc sur la radio digitale du Tour de France. Mais David Gaudu, c'est une catastrophe pour lui, cette première étape. Je demande à David, là.
J'ai pas entendu la fin.
David Gaudu et les autres Français, mais on va s'intéresser à David Gaudu. C'est une catastrophe d'être lâché à 70 km de l'arrivée.
C'est plus qu'une catastrophe. À un moment donné, je pense que la préparation, elle n'a pas été au niveau. Elle n'a pas été au niveau pour être lâché comme ça. Que ce soit Gaudu, que ce soit le groupe Cavendish, qui ont quasiment plus d'une demi-heure de retard. Là, il y a un problème de préparation. Ça roulait pas exceptionnel hein, aujourd'hui. C'était pas.
T'es dur. Oui, on a perdu 90 coureurs du meilleur peloton du monde quand même. Donc c'est que c'était pas tranquille quand même.
Ça roulait fort, mais ça roulait beaucoup plus fort l'année dernière. Mais là, je trouve qu'il y a un problème de préparation. Il y a un problème de préparation pour David Gaudu. Et je pense que là, il n'est pas au rendez-vous, à moins que son pic de forme soit prévu dans 3 semaines sur les Champs-Élysées. Mais il a un problème.
On n'y va pas sur les Champs-Élysées, David.
Sur Nice. Non, mais c'est l'habitude. Moi, je suis tellement habitué que ce soit sur les champs. jusqu'à Nice. Mais
juste pour donner le classement de David Gaudu, parce qu'on ne l'a pas donné, il termine 136e de l'étape à 29 minutes et 14 secondes de Romain Bardet. Il est dans un groupe où on a Lenny Martinez qui est là. On a Kevin Vauclin aussi, dont on attendait peut-être un peu plus. Michael Matthews pour donner d'autres coureurs comme ça. Donc une demi-heure de perdu dès la première étape.
Que Cavendish prenne 40 minutes. C'est une logique sur une étape comme celle-ci. Et on le sait, c'est un pari pour l'équipe Astana. Maintenant que Gaudu soit lâché dans la même côte que Brian Cocard et que Michael Matthews, là, il y a un vrai problème. Ouais. Quand voit Gaudu et Martinez se faire lâcher alors qu'il reste encore 60 coureurs dans le peloton, dont Aramburu, dont Van Aert, dont Pedersen, on se dit qu'effectivement, chez Groupama, ce soir, on va se dire mais comment on va passer ces 3 semaines? Parce qu'il n'y a pas que ces deux-là. Il n'y a pas un coureur Groupama dans le peloton
aujourd'hui.
Il y a
Madouas qui a fait quelque
chose. Madouas, ça fait une belle étape. C'est tout. C'est le seul. Il sauve le truc. Parce que sinon c'est cata.
Je pense, Jérôme, que c'est la journée catastrophe pour Groupama FDJ. C'est complètement catastrophique. Parce qu'on nous dira peut-être l'âge de Lenny Martinez, mais ils ne sont que deux coureurs à être de moins de 21 ans. L'autre, c'est Kulset de l'équipe.
Fini devant.
Et il est dedans. Il est dans le bon coup. Donc, c'est pas l'âge. Ensuite, l'histoire du fait que ce sont des grimpeurs, il y a des grimpeurs devant. Et quand on regarde tous les favoris, leaders au sens large potentiel du Tour de France, le seul leader qui n'est pas dans le bon coup, c'est David Gaudu. Donc, Gaudu
est encore leader là ce soir.
Martinez. Et là où c'est terrible, c'est que Madouas, il pouvait prendre le maillot de meilleur grimpeur. Ouais. Et il se fait lâcher. Et par qui? Et par qui il est devancé au jeu des sprints en haut des côtes? Par Abrahamsen, encore un coureur du NOX, qui a gagné cette année, Johan, tu m'as dit tout à l'heure, à Bruxelles.
Exactement,
voilà.
À Bruxelles et deuxième à travers les Flandres.
Voilà, à travers les Flandres, ça grimpe un peu. Mais on va dire que le gars, c'est un flahut, mais c'est pas un grimpeur. Donc le maillot de meilleur grimpeur, il était pour Valentin Madouas. Donc,
il était très costaud, Abrahamsen, aujourd'hui.
Hein. Oui, il était très costaud. Donc aujourd'hui, ils ont tout perdu. Et on va dire le quatrième élément, Romain Grégoire. Lui, il arrive à 18 minutes 46 avec d'ailleurs notre champion de France Paul Lapeyra pour Décathlon à G2R la mondiale. Voilà. Mais c'est la journée, peut-être l'une des pires journées pour Groupama FDJ dans l'histoire du Tour de France, parce qu'on veut bien, il y a eu des journées terribles après 2 semaines ou 3 semaines, mais là c'est le premier jour et ils sont pas dans le coup.
Mais comment ça s'explique ça? David nous parle d'un manque de préparation, Jérôme, quand David Gaudu arrive sur le Tour et qu'il fait cette performance là, il y a des questions énormes à se poser.
C'est l'ensemble de l'équipe qui a sombré. Quentin Paché a été lâché très, très vite aussi. Quentin, normalement, une étape comme ça, il est longtemps devant. Romain Grégoire, on le présente comme la pépite
ils
de demain.
Ils arrivent ensemble, tous les deux à 18h48.
Voilà, donc c'est pas normal. Il y a un problème de préparation, un problème à la base. Après, peut-être que c'est une sale journée pour tout le monde et puis que dans 8 jours, tout le monde ira beaucoup mieux. Peut-être, mais en tout cas, le rendez-vous, le premier, on n'est pas là aujourd'hui. Au bal de mariage, t'es arrivé le lendemain. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, c'est pas fait pour lancer une bonne spirale. Si tu veux, à un moment donné, tu vois Romain Bardet qui va éclater partout, qui va être en jaune, le français, etc. Et toi, la grande équipe française avec Decathlon AG2R en ce moment, tu as passé à travers. Ton premier coureur, il est 18e et tu n'as pas une lueur d'espoir de dire on a fait une belle journée. Oui, avec Valentin qui a un bon coup de pédale, mais qui a encore craqué au moment où il y a encore Jérôme Franck Vandenbroek devant. C'est aussi, tu te dis, bah ouais, mais lui aussi, le petit Vandenbroek, il était devant. C'est pas Madouas, je pense qu'ils n'ont pas le même niveau salarial, mais pourtant, lui, il fait deux. Tu te dis que oui, on a loupé quelque chose. Lenny Martinez, Fred, ça confirme ce qu'on a vu depuis un mois et demi maintenant. Il est sur le déclin.
Donc, quand Marc Madio nous dit...
Physiquement, attention, ouais, sur le déclin, physiquement, que... à son âge, évidemment pas, mais
parce que quand
il n'était pas prêt pour aller au tour.
Quand Marc Madio répondait à Arnaud Souk tout à l'heure, on a écouté cette longue interview, Marc dit bah finalement on avait caché le fait qu'il viendrait sur le Tour de France, mais c'était prévu.
Pas bien préparé.
Donc là pour le coup c'est pas bien. Je voudrais juste et j'ai l'accord de François. Donc François, j'aurais juste.
Bah, je ne sais pas. Je t'ai donné un accord.
Un accord visuel. Non, juste parce que j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient 48 à pouvoir encore gagner le Tour de France. C'est d'ailleurs les 48 qui sont. Alors parmi eux, chez les Français, il y a Pavel Sivakov. Hein, dû à eux. Ouais. Donc, évidemment, lui, il va rouler pour Pogacar. Il y a Bruno Armirail, très intéressant, notre champion de France du contre-la-montre. Il y a Warren Barguil.
Le seul qui a pu accompagner Félix Gall chez Decathlon. Ils ne sont que deux coureurs Decathlon.
Ouais. Il a peut-être gagné sa place pour les JO, Bruno Armirail.
Oui, ça, c'est important. Oui, exact. Donc,
il enchaîne avec le Giro.
Il y a, les deux compagnons de chambrée, Barguil et Bardet. Et il y a notre philosophe, Guillaume Martin. Et c'est tout. C'est-à-dire que pour le classement général, pour les Français, c'est tout.
Ouais. Non, mais tu as raison. Bah,
Guillaume Martin.
Oui, voilà.
Guillaume Martin qui était 10e l'année dernière, Guillaume Martin de Cofidis.
Vous savez, peut-être que Romain va faire un très très bon classement général, donc, sans vouloir le faire.
Un peu comme Thibaut Pinot l'année dernière.
Je voudrais vous faire.
Vas-y. C'est ça. Non, mais je dis que ça, c'est surtout que ça doit donner des idées à Warren Barguil.
Alors, on va remercier David d'être passé. Merci beaucoup, David.
De rien. Juste un petit truc là, ce que vous dites. Vous pensez réellement qu'aujourd'hui, il y a un Français qui peut faire podium, top 5, podium ou un top 10 au vu de ce qu'il y a eu
cette année?
Cette année, pour moi, il y a...
Non, pas cette année, David.
Ah, c'est ce qu'on vient de dire, hein, David, sur les numérations, là, c'est mort. Hein.
Ah non, moi, il n'y a personne. Ouais. Hein. Ouais. Moi, j'espère que ce sera Poggi qui va gagner cette année pour un peu mettre en faux plan les plans de la Jumbo Visma.
Ouais, on a bien compris que ce n'étaient pas tes amis, les
potes.
Non, mais David...
C'est des potes. C'est comme Ineos, il y a quelques années, où dès qu'il y avait une échappée, il neutralisait la course.
Oui, non, mais je comprends bien.
Et on s'ennuyait. Moi, je m'endormais devant la télé. Hein. Ouais. Je m'endormais devant la télé parce que c'était... des stéréotypés, ils partaient, ils roulaient derrière et tout ça.
Mais David, après, voilà, pour l'histoire des Français, David, j'ai regardé aussi, parce que bon, sur l'avenir, on peut espérer Lenny Martinez, on avait actuellement David Gaudu. Il y a quelques noms qui ressortaient un petit peu, comme Kevin Vauclin, comme Clément Champoussin. Eh bien, ces gars-là, ils ont, comme disait tout à l'heure Jérôme Pinault, sauté en même temps que les sprinteurs. Et donc là, ça fait mal. Là, ça fait mal parce qu'au niveau des classements... Alors, il y a les frères Paré-Peintre qui ont fait un très, très beau Giro. Il y a quelques gars, là, Baudin, Berthet, tout ça. J'ai l'impression qu'on avait un peu l'arbre qui cachait la forêt avec les ambitions de Gaudu. Et là, aujourd'hui, le cyclisme français des classements généraux des grands tours, hein, je ne parle pas des classiques, de tout ça. Mais à ce niveau-là, eh bien, c'est le néant.
Il y a eu Romain Bardet pendant 15 ans.
Et il est encore là.
Et Thibaut Pinot.
En 2019, le tour, il est pour Thibaut Pinot.
Ouais, bien sûr, c'est terrible celui-là. Il est terrible. Il y a deux tours.
On ne va pas refaire le tour 2019.
Non, mais les tours en neuf.
On peut faire le Giro 2021.
Bien sûr. Les tours en neuf, c'est terrible, David, parce qu'il y a 2019 Pinot, il y a 89 Fignon, où il doit gagner aussi pour lui.
On va te remercier. Merci en tout cas. Vas-y.
Te dire, j'avais 2 ans.
Ne me dis pas ça, arrête, ça me vieillit.
Mais voilà, si Thibaut Pinot nous écoute, il a tout mon respect, mon admiration, parce que c'est un coureur exceptionnel. Il m'a fait vibrer, pleurer, haïr le vélo, il m'a tout fait passer par toutes mes émotions. Et c'est vraiment, je ne pense pas retrouver un coureur comme ça d'ici demain ou après-demain. Ça va durer encore longtemps.
Bon, en tout cas, David, merci beaucoup d'être passé. 32-16 touche 9. Tu reviens tous les soirs, 18h-19h. Tu reviens quand tu veux pour débriefer les étapes et pour parler, pourquoi pas, de nouvelles victoires françaises. Juste avant de retrouver Mickaël, qui a fait le 32-16 touche 9, je voudrais vous faire écouter un Français, justement. Madouas, de l'équipe Groupama FDJ. Alors, il ne parle pas de la performance de son équipe, mais plutôt de la performance de son compatriote Romain Bardet. Écoutez.
Enfin, franchement, c'est mérité. Hein. Quand je vois, il a été offensif, il a tenté des choses et ça fait plaisir que ça gagne, surtout sur des étapes comme celle-ci. Et le mérite après sa carrière.
Voilà, c'est très court cette petite réaction, mais évidemment, on va interroger tous les Français sur la victoire de Romain Bardet ce soir.
C'est évident, hein, quand tu es Valentin Madouas, tout le talent qu'il a, tu es devant, tu te fais rattraper par un Romain Bardet qui, on l'a vu, lui donne 2-3 consignes dès qu'il le rattrape. Que le mec qui l'accompagne est avec toi depuis le départ, puisque Frank Vandenbroucke est avec Valentin Madouas. J'en reviens sur la notoriété, la popularité et le niveau sportif et d'engagement financier auprès des deux coureurs. C'est quand même pas la même catégorie. Et Madouas, il passe la ligne à 20 minutes et il voit que Frank Vandenbroucke fait deux parce qu'il laisse gagner Romain. Et là, t'es content pour le mec, pour le Français, mais tu te dis quand même « waouh ».
Il n'est pas le seul, Jérôme, parce que tu te souviens, on avait parlé de Matej Mohoric tout à l'heure. Ben, Matej Mohoric, même chose, il a lâché même avant Madouas. Elle était très particulière, cette étape. Je ne me souviens pas avoir
mais
vu...
Mais la chaleur a dû faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'il faut tempérer ce qu'on vient de dire là. Ouais. Parce qu'il faut... C'était très particulier. C'est un départ du Tour en Italie, un parcours très difficile et une chaleur très étouffante que n'ont pas connu les coureurs jusque-là. Peut-être que certains ont souffert de cela. On a vu Mark Cavendish avoir des crises de vomissement dans la descente du premier col. Ils ont pris la chaleur pleine tronche, les coureurs, et certains ne passent pas. Et tu vois, je ne suis pas loin de dire, et c'est un autre débat, que si Tadej aujourd'hui n'a pas déclenché, c'est que Tadej n'est pas très bon dans la grosse chaleur. Et je pense qu'il a préféré gérer le coup plutôt que de s'exposer à des efforts violents sous cette grande chaleur.
En revanche, Vingegaard, il adore la chaleur, c'est normal, il est danois, hein, il fait très très chaud au Danemark. Il n'a pas couru pendant 85 jours, donc c'était normal qu'il soit bien là aujourd'hui.
Ouais, il sort du frigo là, tu vois, donc le temps que la température remonte, il est tranquille.
Il était congelé en fait, c'est ça, voilà, il décongèle tranquillement.
C'est ça, il décongèle plus là.
Décongélation
naturelle, sans micro-ondes.
Voilà. Non, mais ne soyons pas mauvaise langue, tant mieux pour lui, c'est un grand champion, il est là.
En tout cas, si on peut en faire deux minutes, il a prouvé aujourd'hui qu'effectivement, la condition elle est bonne, hein, parce que sinon il l'aurait pété le garçon. Et l'équipe elle roule, il va rouler, il y a Van Aert, enfin, t'inquiète, ça va pas mal, ça va vraiment pas mal.
Ouais, ça c'est une des indications aussi de cette première étape et c'est important de le signaler.
Rendez-vous en haut du Galibier dans 3 jours, c'est là qu'on saura si Vingegaard peut gagner le Tour de France à mon avis.
Ça dépendra du tempo, Fred.
On va suivre l'étape de demain, on aura le temps de s'y projeter. Mickaël a fait le 32-16 touche 9 pour rejoindre la radio digitale 100% route, c'est la radio spéciale Tour de France mise en place par RMC. Salut Mickaël.
Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde.
Je crois que tu avais beaucoup d'émotions, toi, aujourd'hui.
Bonjour, Mickaël.
Bonsoir, Jérôme. Bonsoir aussi à Fred Brindel.
Bonsoir, Mickaël.
Ah ben oui, moi je te connais très bien, Fred, et tu connais très bien ma famille.
Oh, c'est pas vrai.
Sors pas les dossiers, dis pas ce que je fais en soirée.
Hein.
Ça fait peur. Tu connais, je pense, la famille Le Blacher.
Oh, bah c'est les Meldois. Alors là, attention les amis, c'est le CSMO.
Tu dois te rappeler de moi, je suis le tout petit, le dernier.
Oh, ça c'est beau, voilà, ça, c'est le petit frangin, il faut me raconter, là, on comprend rien. Éric Le Blacher.
Ah, la famille d'Éric, d'accord.
Ah oui, bien sûr.
C'est moi qui tenais la coupe du prix d'équipe à Meaux, à Beauval, quand mon frère Hervé gagne. Commente en tant que speaker.
Oui, parce que je faisais speaker, moi, à l'époque, monsieur.
Exactement. Et
j'ai commenté avec Éric Le Blacher un super Gant Wevelgem. On avait fait un périple tous les deux.
Oui, oui. D'ailleurs, Éric, bon, voilà. Bon, là, il est au repos. C'est bon. Comme vous venez de le dire, il est au frigo, là. C'est bon.
C'est bon.
Voilà, il vient de sortir de la Race Across France, je sais pas si vous voilà.
Mais c'est un fou, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui s'entraîne plus que lorsqu'il était. Voilà.
Ouais. C'est un cycliste professionnel, ancien cycliste professionnel.
C'est ton papa donc, Mickaël. Professionnel. C'est mon frère.
Ah, ton frère, T'as pas entendu.
Oui, j'ai pas suivi.
Il a été ancien coureur cycliste professionnel pendant 5 ans et maintenant il s'est spécialisé dans l'ultra longue distance. Et il vient de sortir de l'ultra de la Race Across France, qui est une épreuve de 2600 km de Lille à Mandelieu sans assistance.
Non, mais ce qui est fou, je peux juste la parenthèse, parce que
voilà, de réunir Mais Bradel, non, mais tu as raison.
En fait, Eric, c'est la génération aussi, Jérôme Pinault. Et le cas d'Eric est très, et parlera beaucoup à Jérôme, et je pense qu'il est au courant. C'est-à-dire que Eric, par exemple, Marc Madiot voulait lui renouveler son contrat. Et il avait été sélectionné en équipe de France pour le championnat du monde, donc super coureur. Et Eric se dit non. De toute façon, je crois que j'ai aucune chance de gagner. Je joue pas à armes égales avec les autres. Et là où il y a clin d'œil, c'est-à-dire qu'au moment finalement où il a quitté le cyclisme, il s'est remis au sport encore plus. Peut-être plus intensément, voilà. Bon, c'est la génération des Fédrigo, des Cazards. Voilà, je les ai tant aimés.
Génération sacrifiée.